France Musique. Les grands entretiens, Benjamin François.
Bonsoir, je m'appelle Rinaldo Alessandrini, je suis musicien, je m'occupe de musique baroque, mais pas seulement de musique baroque.
Rinaldo Alessandrini, qu'est-ce que finalement vous avez appris sur vous-même en interprétant Monteverdi de manière exhaustive comme vous l'avez fait? C'est-à-dire, à force de chercher sur un compositeur, aller tellement loin dans l'interprétation d'un compositeur, est-ce qu'il finit pas par vous renvoyer une image de vous-même?
Il faut le dire sans avoir honte de ça. Absolument oui. Mais vous savez, surtout le premier moitié du 17e pose aux musiciens et aux chanteurs un problème qui est un peu compliqué à résoudre. C'est-à-dire que nous avons perdu la sensation de la surprise de cette musique, surtout de la musique à voix seule. Par exemple, si on écoute de la musique de Caccini, Operi, aujourd'hui on peut dire, bon, pas mal, ça dépend. À l'époque, c'était un tremblement de terre. C'était vraiment énorme. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut prétendre d'avoir le même résultat ou la même surprise? Et donc, voilà, on part déjà avec un petit problème à résoudre. Et la question est-ce qu'on peut recréer d'une manière ou l'autre ces côtés surprenants de cette musique? Et moi, je suis convaincu que c'est possible. Et justement, c'était pour ça que, dans le travail de cette année, il m'a semblé que l'alchimie doit être un peu reconsidérée. C'était Monteverdi qui parlait de l'équivoque entre le recitar cantando et le cantar recitando. C'est un aspect probablement que dit, bon, évidemment, mais c'est pas vraiment tellement évident. Et les conséquences de l'opposition de ces deux concepts est énorme. Et moi, je crois que il y a encore beaucoup à faire pour essayer de focaliser la différence entre le recitar cantando et le cantar recitando.
Est-ce qu'une manière, Rinaldo Alessandrini, de recréer cette sensation, ce n'est pas aussi, certes, au niveau des voix, et ça c'est plutôt, j'imagine, votre voix, V-O-I-E, mais est-ce qu'une tendance ne serait pas aussi, au niveau du continuo, de le rendre plus chatoyant qu'il n'était historiquement?
Mon expérience, surtout au théâtre, c'était basée sur l'idée de privilégier le lieu où le théâtre prenait énergie, que c'est la scène, pas la fosse. Moi, j'étais toujours convaincu que dans un opéra de Monteverdi, dans un opéra de Cavalli, le vent passe sur scène, pas dans la fosse. Mais d'autre part, la fosse est indispensable, parce que c'est la fosse qui fait la différence entre le recitar et le recitar cantando. Alors, l'apport de la fosse justifie le cantando. Mais le recitar vient de la scène. Il faut que les deux éléments puissent marcher ensemble, mais il faut reconnaître les espaces. Probablement, il faut essayer d'éviter de superposer un sur l'autre. Mais dans cet opéra, c'est la scène qui commande, pas la fosse. Il y a des possibilités de contribuer à un certain résultat. Mais d'imposer les données qui viennent à la fosse comme une valeur absolue, je trouve qu'il soit un peu dangereux pour cette musique-là. Et donc, évidemment, alors, Cavalieri, il parle très clairement, disant que les instruments doivent jouer avec variété et avec la capacité de suivre les chanteurs, de le suivre pas seulement en termes de rythme, mais même en termes de exposition théâtrale. Alors, c'est vrai qu'il y a une possibilité de contribution au résultat global, mais d'imposer de solutions musicales en soi-même, je ne sais pas si ça va toujours marcher.
Est-ce que vous êtes, Rinaldo Alessandrini, toujours sur l'objectif d'une traduction de ce que vous dit la partition et de ce que vous dit tout ce que vous savez? J'ai l'impression que vous vous méfiez de l'aspect interprétation, à ne pas plaquer sur la musique des idées trop personnelles.
Non. Moi, je crois tout simplement qu'on doit forcément grouper sous le même label tout ce qui passe dans un théâtre d'opéra à partir du début du XVIIe jusqu'à aujourd'hui. Alors, on parle d'opéra et on dit que Orfeo, c'est un opéra. Orlando Furioso, c'est un opéra. Noce de Figaro, c'est un opéra. Traviata, c'est un opéra. On peut arriver jusqu'à je ne sais pas où. Mais d'une manière ou l'autre, ce n'est pas vrai. Parce que la qualité du théâtre, pas de la musique, la qualité du théâtre, de ces premiers opéras de la première moitié du XVIIe, est complètement différente de ce qui arrive déjà dans la deuxième moitié, et surtout de ce qui arrive dans le XVIIIe. Et je répète, je parle de théâtre en musique, je ne parle pas d'opéra en musique. Il y a un dosage d'éléments qui n'ont rien à voir avec Giulio Cesare de Handel, par exemple. C'est pour ça que musique et théâtre, donc texte et musique, il faut accepter le défi que probablement il faut une approche différente. On ne peut pas toujours traduire cette musique comme de la musique. C'est trop différent. Et je crois que ça, c'est la différence entre recitar cantando et cantar recitando. C'est très subtil. Mais les conséquences sont énormes. Il faut donner une identité à la fosse, parce qu'il y a une fonction très précise de la fosse dans cet opéra de Monteverdi. Mais il faut faire attention que l'apport donné par la fosse soit l'apport juste par rapport à ce qui passe sur scène. C'est une grande comédie ou une grande tragédie qui est parlée, mais elle est chantée aussi. Par exemple, si j'écoute les enregistrements de Harnoncourt, trois opéras de Monteverdi, qui à l'époque étaient formidables, mais ils sont chantés. Ils sont clairement chantés. Et ça va, c'est-à-dire, ok. Moi, je suis convaincu qu'il ne faut pas chanter. Il faut, au moins, il ne faut pas seulement chanter.
France Musique, les grands entretiens de Rinaldo Alessandrini.
Justement, vous parliez de la fosse, du rapport avec la scène. Vous vous êtes essayé, Rinaldo Alessandrini, vous-même, à faire de la mise en scène.
Ah oui.
Quelles sont vos idées en la matière? Et vous avez aussi dirigé dans des fosses où des metteurs en scène ont fait des choses très contemporaines.
Ça m'est arrivé une seule fois. J'ai fait la mise en scène de Couronnement de Poppée. Et j'ai trouvé une expérience formidable. Je me souviens, on a vraiment parlé, parce qu'on parlait avec le chanteur, on disait, mais ça sent vraiment différent quand les indications musique, scène vont dans la même direction. J'aurais aimé continuer un peu, mais ça va, ça va arriver.
Quand c'est un metteur en scène différent de vous-même, ce qui n'arrive pas quasiment tout le temps, qui tient les rênes, vous n'avez pas envie parfois de lui dire des petites choses?
Ça dépend de la musique. Par exemple, pour Monteverdi, c'est vraiment difficile. Et là, il faut comprendre si on est d'accord avec le metteur en scène. Et quelquefois, c'est facile, quelquefois un peu moins. Par exemple, dans les opéras du 18e, en général, je travaille jamais les récits. Parce que je suis absolument convaincu que le récit soit un problème ou soit un travail qui doit être solutionné ou travaillé par le metteur en scène. C'est le moment du théâtre. C'est un texte qui est plus ou moins parlé, plus ou moins chanté, ou l'apport de la musique, absolument, disons oui, mais pas énorme. Et voilà. En général, pour le 18e, c'est plus facile. Ça dépend beaucoup, je crois, de l'intelligence du metteur en scène. Il faut avoir une technique. Surtout, il faut aussi être capable de justifier une telle mise en scène et de démontrer la nécessité de cette mise en scène. Et c'est possible. Moi, j'ai rencontré beaucoup de metteurs en scène qui ont fait des choses à la fois très drôles, mais qui étaient bien réalisées, bien justifiées, où le contexte était un contexte absolument logique. D'autres fois, un peu moins bien. Et après, il y a quelques metteurs en scène qui n'arrivent pas à accepter que la gestion de chanteur sur scène, c'est pas comme la gestion de comédien sur scène. Et ça commence à devenir un peu compliqué parce que on doit faire face à des problèmes pour lesquels quelquefois on s'arrête, on dit « Attendez, vraiment, c'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. » Et là, il y a les histoires qu'on connaît bien qui commencent.
Alors justement, quelle est votre pire expérience? On ne citera pas de nom, évidemment.
C'était quand j'étais physiquement attaqué par un metteur en scène. Ouais. Ça, c'était le pire. Bah, ça m'est arrivé une seule fois. Et moi, par contre, je n'avais rien fait. Je me suis seulement limité à dire, mais non, attends, parce que c'est une répétition générale, donc il me faut gérer dans cet ordre plutôt que l'ordre que tu demandes. Ah ! Il m'a attaqué. Ça va. Les bon, risques du métier.
Vous êtes costaud en même temps.
Non, moi j'étais vous dans avez... la fosse, donc de toute façon, il y avait la fosse qui me protégeait un peu.
Voglia il cielo che questi abbraccialenti non sia un giorno i precipizi tuoi. Penetrati di nero gli amori, un dio teo ti pavento, ogni giorno, ogni punto, sia di tua vita, il giorno e il punto estremo.
Le rapport avec les chanteurs aussi, c'est quelque chose de toujours facile ou il faut faire beaucoup de psychologie?
Il faut toujours faire un peu de psychologie, de toute façon. La chose qui est très intéressante c'est, et très importante avec les chanteurs, c'est de vraiment de créer la nécessité d'un certain travail, d'engager les chanteurs dans un travail commun, de démontrer que quand on parle un langage commun, quand on avance à la même vitesse, le spectacle est mieux. Et donc, il ne s'agit pas seulement de mettre le rôle à côté, le chanteur à côté, mais de créer une synergie à tout niveau.
Et là, vous vous sentez plus dans le rôle, je ne sais pas moi, du père qui rassure, les chanteurs ont souvent besoin d'être rassurés, ou bien...
Je déteste faire le père, non. Moi, je pars avec l'idée que je travaille avec deux collègues, donc... J'ai une certaine responsabilité, je gère le spectacle, donc on a nos responsabilités différentes, mais j'attends une certaine collaboration.
Rinaldo Alessandrini, on a parlé du théâtre d'opéra, mais il y a aussi le théâtre sacré, toutes ces œuvres formidables du répertoire italien, notamment les Vêpres de Monteverdi. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que ces œuvres se retrouvent sur un théâtre classique?
Ça ne m'a jamais arrivé. D'autre part, c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages de l'époque qui nous disent que la musique sacrée était géré comme un événement théâtral, même dans les églises, ou dehors des églises. Donc, il y avait un certain côté théâtral, mais qui était géré à l'intérieur d'un contexte différent. Donc, il n'y avait pas une scène, il y avait probablement la scène était l'église même, je ne sais pas. Mais l'idée de la musique mystique, d'une manière ou l'autre, comment on est habitué plutôt dans le 19e,
ça,
n'existait pas. Ouais. Non, absolument pas. La musique qui élève Dieu Père dans le silence, c'était pas au 18e, absolument. C'était plutôt le bruit.
Vous êtes quelqu'un de religieux, Rinaldo Alessandrini? Vous y croyez?
Non.
Alors, quand vous faites toutes ces œuvres sacrées, avec toutes ces paroles qui veulent dire quand même quelque chose, comment trouver de la motivation pour dire et bien dire, alors que soi-même, on n'y croit pas trop?
La musique sacrée parle aux hommes, de toute façon. La musique sacrée parle aux hommes parce que c'est une musique d'une manière ou l'autre, c'est comme une promesse. Et c'est une promesse de ce qui va passer après la mort. Alors c'est quand il y a le trompette...
Le jugement dernier.
Oui, qu'il soit le jugement, soit qu'il soit les avantages d'aller au paradis. Mais c'est un peu une musique paradoxe qui parle du bien-être qui est compris par les hommes qui sont vivants, pas pour les hommes qui sont morts. Nous, on ne sait pas ce qui va passer après la mort. Donc, alors la promesse, c'est que si vous vous portez bien, après il y aura ça. Tada ! Trompette. Évidemment, pour les gens qui sont croyants, il y aura probablement une approche différente, mais je ne suis pas le seul. Il y a tellement de témoignages, surtout dans le 17e, et la musique, c'était un élément qui poussait les gens à aller à l'église pour écouter la musique, pas la messe. Ma vie a changé après un livre français. Je ne sais pas si c'est le titre original, c'est Le paradoxe du comédien de Diderot. Parce que Diderot explique l'art de la simulation au théâtre. Je pense qu'il soit indispensable. C'est-à-dire, il parle de comment le résultat de notre musique soit un mélange de sensibilité et technique. Et la technique, c'est quelque chose qui nous amène à comprendre un phénomène artistique et à le reproduire sur scène, sans forcément une participation émotionnelle. C'est-à-dire, disons, c'est un exemple, Gloria de Vivaldi, c'est du bruit. C'est du bruit énorme, c'est quelque chose avec un grand sourire. Mais même si on est triste, on peut démontrer un sourire, de toute façon. Je ne veux pas dire participer, ça peut arriver à tout le monde de monter sur scène quand on n'a pas bien dormi, on n'a pas bien mangé, on a les factures à payer, voilà, on n'a aucune raison pour être heureux, mais...
The show must go on.
Exactement.
Gloria in Excelsis Deo, extrait du Gloria en Ré majeur, Rium 589 d'Antonio Vivaldi par le Concerto Italiano et Rinaldo Alessandrini à la direction. Demain, entre autres propos éclairés sur la musique de la part de Rinaldo Alessandrini, vous en saurez davantage sur la quête éternelle de l'idéal sonore chez notre musicien qui s'aventure désormais bien au-delà du baroque, comme quand il interprète Rossini sur instrument d'époque. Merci à Claire Levasseur, Georges Thau, Flora Stanadel et Christine Amado à la réalisation. À demain pour le 5e et dernier épisode de cette série qui s'écoute et se réécoute où vous voulez, quand vous voulez, sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.